Bonjour. Alors ça va être la quatrième leçon dont je parle, pendant laquelle j'essaye de montrer comment une approche cognitive est importante pour l'ethnographie, c'est-à-dire pour ce que nous, comme anthropologues, trouvons sur le terrain. Et c'est aussi la dernière leçon de cette série. Je crois que avant de juste commencer de parler de l'évocation du passé, je voudrais souligner un peu la rationalité de mon approche. C'est que pour moi, l'anthropologie cognitive n'est pas, comme elle l'est par exemple aux États-Unis, une espèce de sous-discipline de l'anthropologie, mais une espèce de critique nécessaire à toute pratique anthropologique. Par exemple, si vous vous rappelez les sujets de ces quatre derniers cours, de ces trois derniers cours, par exemple, j'avais parlé des concepts et tout anthropologue sur le terrain est obligé d'interpréter des concepts, de comprendre ce que les gens disent et ce que les gens font en termes de leurs concepts et ils ont donc à réfléchir sur ce qu'est la nature des concepts. De la même manière, je crois que tout anthropologue sur le terrain a à réfléchir sur la relation de l'implicite et de l'explicite, si ce n'est que pour le simple fait que ce que nous pouvons noter facilement est l'explicite, mais que cet explicite n'a pas beaucoup de sens si nous n'essayons pas au même moment de découvrir l'implicite qui le sous-tend. Et finalement, et pour exactement les mêmes raisons, tout anthropologue a considéré ce qui est métaphorique et ce qui n'est pas métaphorique. Et comme je vous ai montré la semaine dernière, le métaphorique est absolument partout. Donc pour moi, une réflexion cognitive est essentielle à toute activité anthropologique. Ce n'est pas une question de cantonner dans un petit coin de l'anthropologie une sous-discipline qui s'appellerait anthropologie cognitive. Si nous ne prenons pas en compte le genre de phénomène dont j'ai parlé, ça ne veut pas dire que nous ne psychologisons pas l'anthropologie, c'est simplement que nous nous adossons sur une psychologie naïve qui ou ne nous mène pas très loin, ou peut nous mener en erreur. Et naturellement, cela est aussi vrai de ce dont je vais parler aujourd'hui. Un quatrième aspect de ce que tout anthropologue inévitablement rencontre sur le terrain, c'est-à-dire les évocations du passé. À vrai dire, l'évocation du passé que les gens font continuellement, que nous rencontrons dans n'importe quel terrain ethnographique, fait partie d'une capacité beaucoup plus fondamentale qui est tout à fait unique aux humains et qui est probablement étroitement liée au langage, c'est-à-dire la capacité d'évoquer ce qui n'est pas devant nous. Nous évoquons continuellement des événements passés, nous évoquons d'ailleurs aussi des événements futurs, nous évoquons toute une série de choses qui ne sont pas devant nous, qui est quelque chose qu'aucun autre animal n'a la capacité de faire et qui serait probablement impossible de faire sans un langage humain développé. Donc, quand je parle de l'évocation du passé, je parle d'un morceau de ces évocations de ce qui n'est pas devant nous. Et il faut aussi remarquer que ces évocations du passé font souvent partie de tout un discours qui utilise le passé, l'avenir et aussi le théorique. Je ne sais pas si certains de vous étaient là lors du séminaire de la semaine dernière, et j'avais pris une longue citation d'un homme de l'île de Gawa, une citation qui nous avait été fournie par Nancy Mann, et cet homme parlait en général de la réciprocité et du kukula. Il parlait devant Nancy Mann, pas à un moment où des échanges de kula avaient lieu. Il évoquait ce qui s'était passé avant, il allait évoquer ce qui pourrait se passer à l'avenir, et il utilisait cette évocation du passé et de l'avenir pour élaborer une théorie sociologique sur la réciprocité dans le kula et de ce genre de milieu. Donc, je crois qu'il est important, quand nous parlons de l'évocation du passé, de ne pas oublier que ça fait partie de ce système beaucoup plus complexe que nous rencontrons continuellement. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai parlé de l'évocation du passé, et en anthropologie et dans beaucoup d'autres sciences humaines, ce que les gens disent, ou les mots que les gens utilisent, c'est surtout le mot que les gens utilisent, est le mot mémoire. D'une certaine manière, ce que je veux faire pendant cette leçon, c'est montrer à quel point utiliser le mot mémoire pour l'évocation du passé embrouille tout, ne nous aide pas à avancer dans notre réflexion. Et ce que je veux faire est une critique de ce discours omniprésent sur la mémoire. Car pour moi, et je vous expliquerai pourquoi je veux maintenir le mot comme ça, la mémoire est une fonction psychique des individus qui a lieu dans leur système nerveux, tandis que les évocations du passé sont des phénomènes publics, linguistiques, en général, pas toujours, mais presque entièrement, linguistiques, qui ont lieu dans des situations d'échange entre différentes personnes. Et nous ne ferions peut-être pas cette erreur si nous nous rappelions d'une distinction classique faite en psychologie entre deux phénomènes. L'un est se souvenir, qui est l'action de la mémoire, et l'autre est rappeler. Rappeler étant cet acte public, ou même pas nécessairement public, mais un acte conscient de vouloir se rappeler le passé. Parce que naturellement, on peut se souvenir de quelque chose sans vouloir s'en rappeler. Par exemple, si vous ouvrez un livre que vous avez lu il y a longtemps, vous vous rendez compte que vous ne l'avez, que quoi que vous croyiez que vous l'aviez oublié, vous ne l'avez pas oublié, mais vous ne vous en rappelez pas. C'est-à-dire, vous n'étiez pas consciente de ne pas l'avoir oublié. Donc, c'est utile d'utiliser ces deux mots. Donc, pour revenir sur le sujet que je voudrais comme central à cette discussion, c'est-à-dire les problèmes théoriques qui sont causés par un amalgame entre les évocations du passé et l'idée de mémoire, nous pourrions penser que si nous cherchions un coupable, ce serait le sociologue français et le philosophe français plutôt qu'un sociologue, Maurice Halbwachs, dont le nom est commémoré d'ailleurs dans un des amphithéâtres de ce collège. Parce que Maurice Halbwachs, dans deux livres, un seul qui était vraiment un livre complet, pendant sa vie, a plus ou moins créé une notion que maintenant nous retrouvons partout, qui est la notion de mémoire collective ou de mémoire sociale. Ces termes, pour moi, sont des termes très déroutants, dans le sens qu'ils font exactement l'amalgame que je voudrais dénoncer. Mais il serait assez injuste d'utiliser Halbwachs comme un exemple de quelqu'un qui n'a pas réfléchi à cette relation, parce que, à l'encontre de beaucoup de gens qui utilisent le terme mémoire collective ou mémoire sociale, au contraire, Halbwachs l'examine en grand détail. Et il nous propose une théorie qui est intéressante et importante, sur laquelle je vais revenir, qui est, que si je la résumais, est à peu près comme ça. Nous nous souvenons, quand nous faisons une action d'évocation du passé, nous nous adressons toujours à quelqu'un. Nous nous adressons toujours à d'autres personnes. Donc, quoique nous pensions que la notion de mémoire est entièrement individuelle, elle est vraiment dialogique. Elle est toujours adressée à quelqu'un d'autre. Même dans le cas, même dans le cas d'un souvenir que nous n'exprimons pas, même si nous pensons dans notre tête, nous nous souvenons d'un événement, pour nous en souvenir, nous avons à le formuler de telle manière à que, comme si nous nous adressions à autrui. Donc la mémoire est évoquée dans des cadres sociaux, et c'est là les implications psychologiques que Halbwachs fait, cette action d'évocation transforme nos idées du passé, les recrée, dès que nous les mettons en des termes, en des mots. Donc, l'action de se remémorer crée la mémoire. C'est comme si quand nous racontions ce qui nous est passé à un moment éloigné, nous éliminions toute autre version de cet événement dans notre tête et que nous le recréons dans l'action du rappel. Il y a beaucoup de vrai dans ce qui est dit là, mais nous pouvons remarquer déjà une supposition assez bizarre, non pas bizarre, mais une supposition absolument fondamentale, qui est que le stockage des informations dans notre cerveau est nécessairement linguistique. Si nous ne pouvons pas dire ce qui est dans notre tête, ça n'existe pas, ça ne fait pas partie de nos connaissances. Donc l'effort de le dire est la mémoire. Et il n'y a pas d'autre endroit, d'autre moyen que la mémoire pourrait être stockée. Tandis que, si vous vous rappelez ce que j'ai dit quand je parlais des concepts, quand je parlais de l'implicite et de l'explicite, j'ai souligné que la pensée n'est pas linguistique, que le discours est quelque chose d'autre que la pensée. Tandis que implicite pour Halbwachs, et d'ailleurs comme beaucoup des philosophes de son temps, le discours et la pensée sont nécessairement la même chose. Et à vrai dire, il est important aussi de placer Halbwachs dans le contexte de l'école sociologique française à laquelle il appartenait, celle de Durkheim, parce que d'une certaine manière, son livre est une gageure. Un peu comme le livre de Durkheim sur le suicide. Durkheim avait choisi le suicide comme sujet parce que le suicide paraissait un acte individuel entièrement privé. Et ce qu'il essaye, et donc il choisit le suicide pour montrer que même ce qui paraît à premier abord entièrement privé et individuel est vraiment aussi social. Et Halvachs, en parlant de la mémoire, fait exactement le même genre de trajet que fait Durkheim en disant « La mémoire est quelque chose qu'on croit qui est entièrement en nous, privé, quelque chose qui est dans notre crâne, mais je vais vous montrer, la manière dont je viens de vous le décrire, que cela n'est pas vrai, que ce sentiment d'intériorité est faux, car le phénomène est social. » Alors, examinons cette proposition de Halvachs et cette proposition implicite dans énormément de travaux dans les sciences sociales qui parlent, comme je vous le disais, de mémoire collective, de mémoire sociale. Et commençons d'abord sur ce que les psychologues peuvent nous dire à propos de la mémoire. Le problème, c'est qu'ils ont beaucoup trop à nous dire, parce que la mémoire est absolument centrale pour les mécanismes psychologiques. La mémoire est absolument partout. Évidemment, nous avons à utiliser notre mémoire pour comprendre une phrase, simplement parce que nous avons à nous rappeler le commencement d'une phrase pour quand nous arrivons à la fin, pour comprendre le sens. Donc nous utilisons la mémoire continuellement comme ça. Dès que nous identifions quelque chose, si je vois un objet assez bizarre comme ça, pour l'identifier comme un fauteuil, il faut que je tire de ma mémoire le concept de fauteuil qui me permet de comparer cet objet à ce concept. Donc la mémoire est toujours en action. Mais ce genre de mémoire dont je viens de parler, ce qui en anglais est normalement nommé « working memory », la mémoire du travail, n'est pas en général ce qui a concerné les anthropologues, et donc ce n'est pas ce dont je vais parler. Ce qui est un peu dommage, parce que je crois qu'un examen de la mémoire à court terme ou de la mémoire de travail a aussi beaucoup d'importance pour l'anthropologie. Je vais plutôt me tourner vers la mémoire à long terme, la mémoire du passé, car c'est là que nous pouvons rejoindre les discussions anthropologiques les plus classiques. Avant de commencer cette discussion, il est important de faire une distinction aussi totalement classique en psychologie, qui est utile jusqu'à un certain point, mais pas plus loin, entre deux espèces de mémoire, ce qui est appelé quelquefois la mémoire autobiographique ou quelquefois la mémoire épisodique, c'est la même chose, et la mémoire sémantique. La mémoire autobiographique est la mémoire de ce qui nous est arrivé. Donc, la mémoire que le toit de ma maison quand j'avais 14 ans s'est effondré ou que le chemin que je prenais pour aller à l'école, ça fait partie naturellement de mon autobiographie, et cela concerne les épisodes qui me sont arrivés à moi. La mémoire sémantique, par contre, est la mémoire de choses que j'ai apprises, mais non de mon expérience directe. Par exemple, je me rappelle que le nom de 34 des États des États-Unis. Je n'ai pas nécessairement eu à me promener dans tous ces États, mais j'ai appris ça à l'école. Donc il y a ces deux genres de mémoire qui sont très très différents. Naturellement, parce que la source de l'une vient de l'expérience personnelle, la source de l'autre vient d'informations reçues d'autrui, ou par la voie orale, ou par la voie écrite. Commençons donc d'abord par la mémoire sémantique. Et là, un certain nombre d'études faites par des psychologues ont une importance pour les anthropologues extrêmement directe. Parce qu'une question que nous avons à nous poser, une question qui me paraît absolument centrale, est comment est-ce que la mémoire est emmagasinée, comment est-ce qu'elle est stockée dans notre tête. J'ai déjà souligné que implicite dans la théorie de quelqu'un comme Halbwachs est que la mémoire est stockée dans la forme dans laquelle elle est reçue. Mais une expérience extrêmement simple et amusante du psychologue Ulrich Nisse, N-E-I-2-S-E-R, nous montre à quel point cela n'est pas le cas. Ulrich Nisse s'était intéressé à des clubs qui existent aux États-Unis, des clubs de gens qui sont des grands admirateurs, des enthousiastes des histoires de Sherlock Holmes. Et qu'est-ce que ces gens font? Eh bien, ils se rencontrent régulièrement chez eux, une fois par mois, et ils se testent les uns les autres pour voir qui se rappelle le mieux de la mémoire, qui se rappelle le mieux des histoires de Sherlock Holmes. Et donc Nice a pensé c'était très intéressant pour voir comment ils emmagasinaient ces histoires. Donc il a essayé de tester ces enthousiastes de Sherlock Holmes de trois différentes manières. Une manière était en donnant des noms de personnages. Une autre était en donnant des morceaux de texte venant de ces histoires, et une autre était en racontant des petits morceaux de l'intrigue de l'histoire. Et d'une manière d'ailleurs qui ne nous étonne pas, c'était cette troisième manière qui rappelait, qui servait d'ancrage pour la mémoire de ces experts de Sherlock Holmes. En d'autres termes, ils ne stockaient pas les histoires qu'ils avaient lues de la manière et dans la forme qu'ils avaient lues eux-mêmes, mais ils les avaient retransformées en quelque chose d'autre que l'intrigue pouvait rallumer. C'est une manière assez simple de montrer quelque chose que l'on peut démontrer de beaucoup d'autres manières, que nous nous souvenons même de phénomènes comme des histoires en les réorganisant d'une manière qui n'a rien à voir avec normalement avec les narratifs qui ont été utilisés pour transmettre l'histoire à nous. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres manières de démontrer cela, il y en a énormément, mais une autre qui est assez amusante et qui a eu beaucoup d'importance dans l'histoire des théories sur la mémoire, et ce qui a souvent été appelé les méthodes cicéroniennes pour se souvenir de quelque chose comme par exemple ce dont je voudrais vous parler au cours de cette leçon. Cicéron, pour se rappeler pendant les longs discours qu'il faisait au Sénat, imaginait, je crois, un arbre avec différents objets placés sur l'arbre, et alors il faisait le tour dans son imagination des différents objets qui pendaient à différents endroits de l'arbre, et en se rappelant, donc il passait, il avait un lapin, et il associait le lapin à toute une petite partie de ce dont il voulait dire, ce qu'il voulait dire à ce moment-là, puis ensuite il allait vers une bouteille, etc. Et comme ça, il pouvait se rappeler ce qu'il voulait dire pour ces très 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 longs discours, tandis qu'il était totalement incapable de les apprendre par cœur. En d'autres termes, il avait à les réorganiser d'une manière qui probablement est beaucoup plus proche de l'organisation qui existe dans notre cerveau. Nous avons le même genre de choses, par exemple, sur dans les manuscrits illustrés. Le but des livres au Moyen-Âge n'était pas de les lire, mais de les apprendre par cœur. Et quelque chose qui avait longtemps intrigué les gens qui regardaient ces manuscrits, c'est qu'ils voyaient dans la marge des manuscrits des petits dessins qui ne paraissaient n'avoir pas grand-chose à voir avec le texte même. Il y avait un pommier juste dans la marge, et puis un peu plus loin, une scène de chasse, etc. Et les gens se demandaient, c'est peut-être là pour faire joli, mais pourquoi est-ce qu'on mettait ce genre de choses qui n'avaient rien à voir avec le texte? La raison est que ces petits dessins étaient utilisés comme une technique pour, quand le texte avait été appris par cœur, la personne qui se remémorait le texte imaginait ces petites scènes les unes après les autres, et ensuite se rappelait du genre du texte qui était associé près du pommier ou de la scène de chasse, etc. Donc on peut voir que quand les gens essayent de se rappeler des informations sémantiques extrêmement complexes, ils ont besoin, ou en tout cas ça leur est plus facile s'ils les réorganisent d'une manière qui est très différente de la ligne du narratif. Et d'une certaine manière, on peut aussi voir ce phénomène dans le fait qu'il y a certaines techniques pour aider les gens à se rappeler des détails de choses qui leur sont arrivées ou dans leur vie. Par exemple, nous savons très bien que si des gens ont oublié des détails d'un événement de leur vie, on peut les aider à se rappeler ces détails en les mettant dans le même, en causant les mêmes émotions chez eux que les émotions qu'ils avaient au moment de l'événement. Par exemple, s'ils étaient très en colère, quand quelque chose s'est arrivé et qu'ils n'arrivent plus très bien à se rappeler ce qui s'était passé, si on les met en colère de nouveau, ils se rappellent beaucoup mieux des détails de ce qui s'était passé quand ils étaient en colère. C'est particulièrement facile avec la colère. Et qui montre aussi que le stockage, l'emmagasinage de la mémoire n'est pas simplement une histoire comme on pourrait la lire, si vous voulez, dans un livre. Un autre élément très très important que nous avons appris nous vient du psychologue anglais Bartlett. il travaillait à Cambridge il y a très longtemps, dans les années 50, et qui a écrit un livre très connu qui s'appelle Remembering. Un livre très important pour les anthropologues qui ne le connaissent pas très souvent. Une des parties les plus fameuses de ce livre raconte une expérience que Bartlett avait faite avec des étudiants à Cambridge, toujours les pauvres étudiants qui sont les sujets des expériences psychologiques, et une expérience d'ailleurs qu'il avait faite avec l'aide d'anthropologues. Bartlett avait beaucoup travaillé avec plusieurs anthropologues. Et alors, ce qu'il avait essayé de faire, c'est qu'il avait lu à des étudiants de Cambridge des mythes des Kwakiutl, ces peuples de la côte nord-ouest de ce qui est maintenant les États-Unis et le Canada, des mythes qui avaient été enregistrés par l'anthropologue Boas, et il leur avait lu, c'est une histoire qui est en général décrite comme la guerre des fantômes. C'est un mythe très bizarre, d'ailleurs comme tous les mythes nord-américains, quand on les lit comme ça à froid, paraissent très 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 bizarres. Et Bartlett voulait voir à quel point ces mythes, à quel point les étudiants pouvaient se souvenir de ces mythes après qu'on les avait lus, qu'on les avait lus une fois devant eux. Alors il leur demandait après une heure de leur raconter le mythe, après un jour, après trois jours, après un mois, après deux mois, après trois mois, etc. Et ce que Bartlett a trouvé, ce qui était assez étonnant, c'est qu'on aurait pu croire que il y aurait une espèce de dégradation de la mémoire des étudiants, que donc, une heure après, ils se souviendraient assez bien du mythe des Kwakiutl qu'on venait de leur lire. Un jour après, ils s'en souviendraient moins bien. Un mois après, ils s'en souviendraient encore moins bien. Deux mois après, ils s'en souviendraient encore moins bien. Et trois mois après, il resterait presque rien. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Si on prend si on pouvait faire un graphique de leur oubli, ce qui se passait, c'est qu'ils oubliaient le mythe très 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 vite. Et qu'après, une période de stabilisation s'établissait et qu'ils n'avaient plus l'air de l'oublier, ils avaient l'air d'assez bien. Donc, deux jours après, ils vous donnaient cette version, qui est tout de même très différente du mythe tel qu'on leur avait lu, mais deux mois après, ils n'avaient pas vraiment changé beaucoup. C'est comme si, à ce moment-là, la mémoire du mythe, ou le peu qui s'en souvenait, s'était fixé et ne se dégradait plus. L'explication que Bartlett donna de ça et qui a souvent été confirmée de différentes manières, c'est que le mythe des Kwakiutl était totalement étrange, totalement étranger à la culture des étudiants de Cambridge. Et que entendant quelque chose qui était tellement bizarre pour eux, ils ne pouvaient simplement pas le maintenir dans leur mémoire du tout, ou très très, très peu. Ce qu'ils avaient besoin de faire, c'est de le réorganiser selon ce qu'il a appelé un schéma du genre d'histoire qu'ils connaissaient dans leur propre culture. Donc, ils transforment l'histoire de la guerre des fantômes en le genre d'histoire qu'ils avaient appris tout le long de leur éducation à emmagasiner, et qu'une fois qu'ils l'avaient transformé de cette manière, alors ils n'avaient pas beaucoup de difficultés à s'en rappeler à très long terme. Les implications de cette expérience sont immenses pour les anthropologues. Cela veut dire que, d'une certaine manière, nous ne pouvons pas stocker ce qui est complètement en dehors des idées, en tout cas de la structure des idées de notre propre culture. Il faut que nous le retransformions pour facilement le mémoriser. Je disais que ça a énormément d'implications pour l'anthropologie. Pensez à une situation assez classique, qui est le genre de choses que les anthropologues de nos jours aiment beaucoup, des sujets auxquels ils aiment beaucoup réfléchir. Ils s'intéressent beaucoup au phénomène qu'ils appellent la globalisation. Donc, vous pouvez vous imaginer comme assis dans un village indien, bombardé par des programmes importés du Mexique, comme c'est le cas, des soaps, en français des séries quasi romantiques, des histoires de famille, comment on dirait en français, des feuilletons brésiliens qui voient soir après soir, avec des idées de mariage, d'amour, de relations familiales totalement différentes de ce qui est classique dans la culture indienne. Et alors, on pourrait présumer que ce bombardement médiatique transforme complètement leur point de vue sur ce qu'est le mariage, la vie, l'amour, la sexualité, le genre et tout ça. Mais si l'effet Bartlett est comme il le représente, c'est peut-être beaucoup moins qu'on pourrait le penser. Simplement que on voit ce feuilleton soir après soir, mais la question est comment est-ce qu'on s'en souvient? Comment est-ce qu'il est emmagasiné? Et si l'effet Bartlett a lieu, il est très possible qu'on peut voir soir après soir des histoires brésiliennes avec toute une série de normes et d'idées totalement étrangères, mais que ces histoires ne sont emmagasinées qu'en termes des schémas indiens déjà prêts. Naturellement, il ne faut pas exagérer, les choses changent, mais peut-être beaucoup, beaucoup moins qu'on le croit, simplement à cause de ce genre du phénomène schématique. Il y a beaucoup d'évidence maintenant qui montre que les choses qui sont complètement en dehors des schémas que notre culture crée et qu'elle place dans nous au long de notre vie ne sont simplement pas vues ou si vues oublié très 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 rapidement. Maintenant, tournons-nous vers ce qu'on pourrait appeler la mémoire autobiographique ou la mémoire épisodique. D'ailleurs, j'en ai déjà un tout petit peu parlé. Et nous pourrions penser que là, au moins, Le phénomène d'être présenté à quelque chose d'extérieur et d'exotique ne peut pas avoir lieu. C'est simplement une question d'emmagasiner ce qui nous est arrivé et que nous le faisons de notre manière, comme nous le voulons. Par contre, énormément d'expérience montrent que là aussi l'influence des schémas est extrêmement importante. Mais avant de commencer l'expérience de l'influence des schémas, je voudrais simplement parler de quelque chose qui est lié à l'influence des schémas, mais qui n'est pas exactement l'influence des schémas, de l'influence des narratifs que nous recevons d'autrui, que nous assimilons d'une certaine manière et que nous ne pouvons plus distinguer de ce qui nous est arrivé à nous. Un exemple fameux nous vient d'ailleurs des travaux de Piaget, que je suppose que beaucoup de vous doivent connaître. Piaget raconte comment il se rappelait un incident qui avait eu lieu sur les Champs-Élysées quand il était tout jeune, à 2-3 ans, et que des personnages avaient essayé de le kidnapper comme bébé pour tirer une rançon de ses très riches parents, mais que sa nurse, une femme héroïque, l'avait sauvé, leur avait fait peur, je sais pas, et l'avait protégé, et que finalement le bébé Piaget n'a pas été kidnappé et la psychologie du développement a été sauve. Mais Piaget nous raconte que beaucoup plus tard, ses parents ont reçu une lettre venant de cette nurse, qui à ce moment-là était vieille et pleine de remords, dans laquelle elle disait que c'était une histoire totalement... Alors, on lui avait donné une magnifique montre, ça se passe, c'était des Suisses après tout, on lui avait donné une magnifique montre, pour la remercier d'avoir sauvé leur enfant, et qu'elle renvoyait la montre aux parents parce que elle avait honte, parce que c'était vraiment quelque chose qu'elle avait totalement imaginé. C'était un mensonge, et donc elle ne pouvait pas garder la montre. Mais ce qui intéressait Piaget, c'est que lui, pendant tellement longtemps, était absolument sûr que cette histoire lui était arrivée. Et que parce qu'on lui en avait parlé, on en avait parlé toute sa jeunesse, c'est un grand événement. Donc, sa mémoire autobiographique avait été transformée par les histoires qu'on lui avait racontées. Mais également intéressant, et une autre histoire racontée par le même Ulrich Nisse, à propos de l'assassinat de Kennedy. Ulrich Nisse, comme beaucoup de gens de cette période, se rappelait d'une manière absolument frappante où ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient quand on leur a annoncé l'assassinat de Kennedy. Il racontait où il était pendant, il était en train de regarder un match de baseball à la télévision, quand brusquement le programme a été interrompu et on a annoncé que Kennedy avait été assassiné. Mais à ce moment-là, son ami lui a dit, mais quand est-ce que... Vous vous rappelez la date de l'assassinat de Kennedy? Il dit, oui, mais c'était une période où il n'y avait pas de jeu de baseball, parce qu'on joue du baseball que 6 mois de l'année aux États-Unis. Et donc, il s'était rendu compte que c'était complètement... Il avait dû transformer cette mémoire, et ce genre de choses a été vérifié dans beaucoup d'autres cas. Les gens ont essayé de reproduire cette expérience, par exemple, quand Olof Palme en Suède a été assassiné. Un psychologue américain qui connaissait bien cette histoire, brusque, immédiatement après l'assassinat d'Olof Palme, a envoyé tous ses étudiants interviewer tous les gens qu'il connaissait, savoir exactement où ils étaient et qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils ont entendu que Olof Palme avait été assassiné. Et un an après, il est renvoyé chez ses étudiants pour aller interviewer les mêmes personnes. Et énormément, quoi, tout le monde était persuadé qu'il se rappelait parfaitement où ils étaient. En fin de compte, avaient changé leur histoire. Mais ce qui est intéressant dans ce phénomène, c'est que la manière dont les histoires sont changées est vers des situations stéréotypiques. Les gens qui se trouvaient, qui étaient en train de je ne me rappelle plus les détails, mais enfin, disons qu'ils étaient en train de compter le nombre de poulets qu'il y avait dans leur ferme, ne se rappelaient pas qu'on leur avait dit, que c'était à ce moment-là qu'on leur avait dit qu'Olof Palme avait été assassiné. Toujours, ou pas dans tous les cas, mais dans beaucoup, beaucoup de cas, le nombre de gens les histoires que les gens racontaient suivaient un espèce de scénario stéréotypé, donc un schéma absolu pour ce genre d'histoire. Brusquement, leur femme faisait irruption dans la salle de bain, et ils se levaient et éclaboussaient toute la salle de bain. Ça, c'est assez typique du genre d'histoire. Il y avait une espèce de drame un peu amusant qui avait été placé vers ce genre de stéréotype. Donc, les histoires, la mémoire autobiographique est aussi fortement transformée par des phénomènes qui sont des phénomènes culturels, c'est-à-dire le genre de schémas qui sont appris au cours de la vie dans une culture particulière, qui informent ce qu'on se rappelle, ce qui nous est arrivé à nous parfaitement, honnêtement. Et en fin de compte, beaucoup d'autres travail a été fait sur les schémas. Et ce qui a été montré, c'est que d'une certaine manière, ils sont essentiels à la manière dont on peut, dont on vit notre vie, et dans la manière dont nous communiquons avec d'autres personnes. Par exemple, si je vous raconte une petite histoire, typique du genre de choses qu'on pourrait se raconter entre amis, alors je dis à mon ami, vous voyez, je reviens d'Aulnay-sous-Bois, et juste avant le péage, un mec me double à droite, j'étais furieux, et puis pas trop mécontent de voir un gyrophare un peu plus loin. Ce genre d'histoire absolument banale, typique du genre de choses que nous disons, mais pour comprendre cette histoire, il faut avoir toute une série de connaissances culturelles particulières, et des schémas donc stéréotypés sur qu'est-ce que c'est qu'une voiture, qu'est-ce que c'est que la police, qu'est-ce que c'est que une autoroute, comment tout ça est organisé. Donc notre communication du jour le jour dépend sur des schémas qui sont formés par le genre de vie que nous vivons, le genre de société dans laquelle nous sommes, le genre de milieu dans lequel nous avons été élevés, et que c'est ça qui facilite la conversation, parce que c'est comme ça qu'une petite histoire comme ça peut être comprise. Sinon, ça serait très ennuyeux si quand je raconte cette histoire, j'avais expliqué que les autoroutes étaient un endroit où les voitures roulent, qu'on conduit à droite, qu'il faut que les règles de la route sont de telle manière que donc de doubler à droite, etc., etc., etc. C'est pas comme ça que la vie se passe. Donc, pour que la vie se passe et pour que la communication se passe, toute une série de schémas doivent encadrer le flux social, et on le fait, on les fait que l'on ne remarque pas certaines choses et qu'on en oublie d'autres. Et qu'on en remarque certaines, que tout est organisé autour de ces schémas qui organisent notre compréhension et notre communication. Alors, ce que je voulais vous montrer dans avec ces quelques exemples, c'est comment notre mémoire autobiographique ou notre mémoire épisodique, utilisez les mots, le mot que vous voulez, est très fortement influencée par notre culture, ou peut-être un autre mot pour notre culture, les schémas qui sous-tendent la communication normale. Et cela est assez intéressant pour la question aussi beaucoup discutée en anthropologie, de ce qu'est l'identité. L'identité est un mot qui est beaucoup utilisé et en anthropologie et dans les sciences sociales, mais souvent avec très très peu de précision. Et une des meilleures définitions que nous avons est tout de même une très vieille du philosophe anglais Locke. Je suppose que vous savez comment on écrit Locke. D'accord, si vous voulez. Locke a suggéré que notre identité est en fin de compte les histoires que nous nous racontons à nous-mêmes, à propos de nous-mêmes. Nous les racontons à nous-mêmes ou à d'autres gens, mais c'est une espèce de construction autobiographique explicite ou implicite que nous faisons. Alors, si Locke a raison, et si notre mémoire autobiographique est formée, transformée par les histoires que les autres nous racontent à propos de nous-mêmes, et aussi par les schémas de notre propre culture, nous commençons à voir que quelque chose d'aussi individuel et d'aussi personnel que ce qui est évoqué par le mot identité est aussi en grande partie culturellement construit et socialement construit. Donc, est-ce que je suis arrivé à ce point dans la leçon, à revenir simplement à Alvax? Ben, je crois que oui et non. D'abord, prenons ce que la proposition centrale de Alvax. C'est-à-dire que la mémoire a toujours un cadre social, que quand nous parlons du passé, nous parlons à d'autres personnes, quelquefois imaginaires, mais souvent présentes, donc un cadre social, dans des endroits sociaux, à des moments sociaux précis, et cela a énormément d'implications. Parce que, évidemment, si nous pensons que l'évocation du passé a lieu dans ce genre de contexte culturel ou social, il est évident que seulement certaines choses peuvent être dites on ne peut pas dire n'importe quoi à n'importe qui, à n'importe quel moment. Dans n'importe quel contexte. Il n'est pas approprié de parler de comment ça, comment c'est difficile de se couper les ongles de pied à un dîner guindé ou à le conducteur de l'autobus. Donc, les évocations du passé sont cadrées par le social. Et, en fin de compte, c'est ça que souligne Halbwachs. Et ça me paraît totalement exact. Et aussi éliminer beaucoup de fantômes dans la discussion de la mémoire. Par exemple, toutes ces discussions sur la mémoire d'événements horribles qui sont arrivés à des gens, des massacres, etc., qui sont le fait bien connu que les gens à qui ce genre de choses est arrivé n'en parlent pas pendant très longtemps ou quelquefois jamais, est souvent interprété comme le résultat de traumas, de traumatisme ou de répression ou tout ce que vous voulez, peut-être, mais ce genre de choses sont totalement hypothétiques. Utilisons d'abord quelque chose de beaucoup plus évident, c'est qu'il n'y a pas de contexte approprié pour parler de ce genre de choses. Et un certain nombre d'études anthropologiques ont démontré cela remarquablement bien. Un livre par l'historienne française Jocelyne Dacquier, qui intitulé « L'oubli de la cité », est une étude de travailleurs tunisiens qui travaillaient en France dans les usines Citroën, d'ailleurs, je crois, revenus dans un village tunisien, et ce qui l'avait frappé, c'est que les gens ne parlaient jamais de ce qui leur était arrivé quand ils étaient en France, qu'est-ce que c'était que de travailler dans les usines Citroën. J'ai connu exactement le même genre de choses à Madagascar. Beaucoup de gens qui avaient été dans l'armée française n'en parlaient jamais. Alors on pourrait dire que c'était réprimé ou caché par des processus psychologiques, mais il y a une raison aussi qui me paraît extrêmement simple. C'est simplement pas le genre de choses dont on parle dans un village malgache. C'est pas le genre de, on n'a pas d'auditoire, on n'a pas de gens qui comprendraient de quoi on parlerait. Ou pour qui ça ne serait pas impoli brusquement de parler de ce genre de choses. Donc certains discours sont complètement exclus par le cadre social, ce dont parlait Halbwachs. Ça ne veut pas dire naturellement que ces phénomènes sont oubliés. Et il est évident, si on prend l'exemple de l'étude de Dacquier, que ces gens-là n'avaient pas oublié comment c'était de travailler dans les usines Citroën. Simplement, ils n'avaient pas d'occasion d'en parler. Un phénomène assez simple. Ensuite, nous savons qu'il y a un effet sur les évocations du passé causé par les évocations qu'on a déjà faites. Ce que je veux dire par cela, c'est que quand vous avez raconté une histoire, disons quelque chose qui vous est arrivé à des personnes plusieurs fois, il n'est pas clair que la prochaine fois que vous racontez cette histoire, votre mémoire n'est pas la mémoire de la dernière fois que vous l'avez racontée. Il n'est pas du tout clair qu'elle se rapporte à l'événement lui-même. Il y a beaucoup de travaux expérimentaux qui montrent que c'est en grande partie le cas. Que donc, et là je vais toujours dans la direction de Halbwachs, si, suivant Halbwachs, c'est le cadre social qui crée ce qu'on peut dire du passé dans un événement, le fait que c'est ainsi peut vouloir dire que la mémoire les évocations du passé que l'on produit seront créées par le fait des contextes passés dans lesquels on a rappelé ce passé. Et ensuite, et alors là, nous pouvons poser la question que pose Halbach, est-ce que cela a un effet sur la mémoire? Nous savons qu'en fin de compte, ça a un effet. Pas du tout l'effet aussi radical que proposait Halbach. Et nous savons aussi que la mémoire est affectée par les discours d'autrui, par les schémas, et ainsi de suite. Donc, Halbach a en grande partie raison. Mais, est-ce qu'il a raison de parler de mémoire collective? À mon avis, pas du tout. Le genre de phénomène dont je vous ai parlé est précisément de comprendre comment des phénomènes comme la culture dans laquelle on a été élevé, les situations, les cadres sociaux dans lesquels les évocations ont lieu, ont un effet sur la mémoire comme phénomène psychologique individuel. Ça n'implique pas du tout une espèce de mémoire de groupe, une espèce de mémoire collective qui flotterait Dieu ne sait où. Il n'y a qu'un seul mécanisme pour emmagasiner le passé, et ça c'est notre système nerveux. Et de parler de mémoire collective peut être une bonne métaphore pour évoquer le genre de phénomène, le genre d'interpénétration dont j'ai parlé. Mais si nous allons plus loin et commencer à croire que c'est un phénomène individuel, c'est un phénomène en soi-même, qu'il pourrait y avoir quelque part une mémoire collective, je crois que le genre de discussion que nous avons eu au cours de cette leçon ne devient plus possible. Simplement, c'est très simple, c'est simplement qu'il y a toute une série de phénomènes qui affectent la mémoire individuelle, qui est un phénomène psychologique. Et donc je finis là en essayant d'utiliser cet exemple pour vous démontrer à quel point je crois qu'une approche, si vous voulez, plus naïve que celle souvent impliquée dans les sciences sociales, surtout depuis Durkheim, nous permet, en fin de compte, d'aller plus loin au lieu de créer des obstacles bizarres qui sont créés par des termes comme mémoire collective ou mémoire sociale. Voilà.